des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier. Bienvenue à toutes et à tous dans Brin de Jardin, la chronique jardin sur les ondes de Radio Royan-Vercors 93 FM. Nous sommes en compagnie de Romain Jacquier-Laforge qui est jardinier et qui nous propose chaque semaine cette chronique. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain qui a un invité à nouveau aujourd'hui en la personne de Romain Murga qui est pépiniériste à Échevis. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui de pollinisation en compagnie des deux Romains. Donc on va se demander d'abord pourquoi les arbres fruitiers, pourquoi dit-on qu'ils se plantent par deux ?
Alors effectivement, souvent on dit que les arbres fruitiers doivent être plantés par deux pour pouvoir fructifier parce que sinon il va y avoir de la fleur sans fruit. Alors la raison c'est que le fruit c'est un développement d'une partie de la fleur qui est là pour nourrir la graine. Et donc pour qu'il y ait graine, il faut qu'il y ait pollinisation. Donc cette partie en question, c'est ce qu'on appelle le conceptacle, c'est à la base du calice de la fleur. Donc c'est vraiment là où les pétales sont
joint
à la base des
peu.
Pétales. Ouais, voilà. Et dans ce conceptacle, on trouve un ou plusieurs ovaires qui contiennent une ou plusieurs ovules. Et c'est le fait que ces ovules soient fécondées qui va déclencher le gonflement du conceptacle sur la fleur et donc la création du fruit. Donc il peut y avoir des fruits qui vont avoir un seul ovaire avec une seule ovule, par exemple la prune, il va y avoir une graine. Et donc il faut que cette ovule soit correctement fécondée pour que le conceptacle grossisse et qu'on ait une prune. Il y a aussi des fruits qui vont avoir un ovaire mais avec plusieurs ovules, c'est le cas de la pomme. Une pomme qui est parfaitement fécondée, elle va avoir 10 pépins. Donc si on veut avoir une pomme qui soit de forme homogène, qui soit charnue sur toute sa périphérie, il faut que les 10 pépins soient viables, donc les 10 pépins soient fertiles et aient été pollinisés, les 10 ovules. Et si ce n'est pas le cas, on peut avoir des pommes qui sont un petit peu difformes. Et il y a également des fruits qui vont avoir dans la fleur plusieurs ovaires et dans les ovaires plusieurs ovules. C'est le cas par exemple de l'azimine, dont la fleur va créer une grappe de fruits en fait.
L'azimine qui est une sorte de mangue dont on parlait dans la précédente chronique, n'hésitez pas à aller l'écouter.
Exactement.
Et donc est-ce que ça veut dire, j'ai une question qui me vient, est-ce que ça veut dire que quand on a une repousse spontanée d'arbres fruitiers, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va y avoir qu'une seule repousse ?
Alors quand tu sèmes un noyau ou un pépin d'une variété, en fait si tu veux, et là Romain Murga va vraiment bien t'expliquer, tu n'auras pas exactement la reproduction de ton plan de départ. C'est ça le truc.
Effectivement, en fait, naturellement, les plantes ont tendance à être autostériles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'autopolliniser. C'est un mécanisme qui permet d'assurer la pérennité de l'espèce. Si la plante s'autopollinise, elle n'aura que très peu de brassage génétique. Et effectivement, quand on va la semer, on va avoir quelque chose qui sera fidèle et on aura des fruits qui ressemblent au pied-mère. Mais ce mécanisme d'autofertilité, il conduit à l'extinction de l'espèce parce qu'il n'y a plus de brassage génétique. Donc naturellement, les plantes ont tendance à être autostériles, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui inhibe la fécondation des ovules quand le pollen qui rentre dans le stigmate, donc en haut du pistil, donc le pistil c'est l'organe reproducteur femelle, quand le pollen qui vient des étamines de la même fleur rentre dans le stigmate, il y a un mécanisme qui inhibe la pollinisation et qui bloque ce pollen. Donc là, ce dont je vous parle, quand il y a des fleurs qui ont à la fois un pistil et des étamines sur la même fleur, on appelle ça une fleur parfaite. Donc il y a l'organe reproducteur femelle et mâle sur la même fleur. C'est le cas des plantes qui sont dites monoïques. Monoïque en grec, ça veut dire une maison. Ça veut dire simplement en fait que le papa et la maman habitent sous le même toit, en botanique. Donc dans ces espèces monoïques, il y a les fleurs monoïques hermaphrodite, celle dont je viens de parler, donc c'est le cas du pommier, de l'azimunier, du cerisier, du pêcher, de l'abricotier et compagnie. Mais il y a aussi des espèces qui sont monoïques strictes, c'est-à-dire qu'il y a sur le même plan des fleurs mâles et des fleurs femelles. Ça va être le cas du noisetier, le cas aussi du noyer, donc il y a pas mal d'espèces comme ça.
Mais ça veut dire que par exemple le noisetier, tu peux le planter tout seul pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir...
Alors le noisetier, il est monoïque strict, c'est-à-dire que sur un plan, il va y avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles, mais par contre, il est quand même autostérile. C'est-à-dire que la fleur femelle va refuser la pollinisation d'un pollen venant d'une fleur mâle.
Et effectivement, c'est joli à voir d'ailleurs, et c'est intéressant de le regarder. Alors, tu disais noyer et noisetier. Moi, c'est vrai que c'est les deux qui me viennent comme ça à l'esprit. Les noisetiers, on voit déjà, là, on est au mois de... Nous, on enregistre fin novembre, mais on voit déjà les chatons mâles, qui sont donc l'organe qui va donc donner le pollen, qui sont présents, en fait, mais qui sont assez resserrés, qui sont assez compacts. Et au printemps, en fait, avec la chaleur, j'imagine, l'augmentation des jours, enfin voilà, ils vont s'allonger et en fait ils vont libérer le pollen, et donc après ce sera le vent surtout qui va transporter ce pollen, parce que c'est pareil, vous avez des plantes qui sont pollinisées par le vent ou par des insectes en règle générale, enfin moi voilà, et si vous voulez, la fleur femelle du noisetier, c'est très joli, ça, sur les bourgeons qui sont assez trapus, assez gros, vous avez à un moment donc qui est peut-être mi-mars, enfin, ça va dépendre, hein, bien sûr, hein, c'est un petit peu tard sur la fin de l'hiver, vous allez avoir comme une sortie, en fait, on va dire que ça ressemble un petit peu à quelques poils, hein, tout simplement, rougeâtres, qui font peut-être 2-3 mm de long, et en fait, c'est ça qui va réceptionner ce pollen. Et sur le noyer, c'est génial, parce qu'en fait, donc, vous avez ces mêmes chatons qui sont présents, et en fait, sur le brou, moi, je suis pas très bon en noyer, hein, mais sur le réceptacle le vert, là où vous avez à l'intérieur votre noix, vous avez au bout, en général, vous avez comme des espèces de petits ces réceptacles, en fait, qui se retrouvent sur la fleur donc du noyer. Donc, en fait, la fleur du noyer, c'est ce que vous allez retrouver au bout de votre enveloppe verte de la noix, en fait, en plus petit.
Effectivement, on voit sur les fruits à la récolte, on voit encore des traces, des signes de la fleur. On voit que, en fait, le fruit est simplement la conséquence du grossissement du conceptacle. Parce que, par exemple, sur une pomme, quand on regarde le bas de la pomme, donc pas côté pédoncule, mais de l'autre côté, on voit encore le calice. C'était là où les pétales de la fleur étaient insérés, en fait. Et cette pomme, c'est simplement cette base de la fleur. Le fruit, c'est simplement cette base de la fleur. Et par rapport à ce que tu disais sur la pollinisation, effectivement, il y a des espèces qui sont pollinisées par le vent et d'autres par les insectes. Et c'est assez facile de savoir, d'avoir une petite idée de qui est pollinisateur de qui. Parce que sur les fleurs, par exemple, d'abricotiers, pêchers et compagnie, les pétales sont là pour les insectes. En fait, elles vont avoir un rôle mécanique parce qu'elles vont protéger un petit peu les organes reproducteurs de la pluie et du vent, mais c'est surtout, en fait, une piste d'atterrissage pour les insectes et aussi un bel encart publicitaire. Ça sent bon, c'est coloré, et donc les insectes savent où aller.
La nature pense à tout, décidément.
Voilà. Alors que quand la pollinisation se fait par le vent, il n'y a pas besoin d'autant de...
Le châtaignier aussi, c'est par le vent. Enfin voilà, et c'est vrai que la fleur de châtaignier... un chêne, alors je sais que là on sort du truc, mais un chêne c'est le vent et ça fait aussi donc des chatons, enfin voilà, mais c'est toujours intéressant d'essayer de regarder, parce qu'on voit le gland, mais voir ce qui s'est passé avant, c'est sympa, quoi.
Voilà, donc c'est très complexe, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, des fleurs hermaphrodites, des fleurs mâles et des fleurs femelles, et il y a aussi des plantes qui sont dioïques, donc qui ont deux maisons. Le papa habite d'un côté, la maman de l'autre. Le plus connu, c'est le kiwi, par exemple. Il faut un pied mâle absolument pour polliniser des plantes femelles, à moins de passer par des subterfuges où on pourrait greffer, par exemple, une branche de mâle sur un pied femelle pour apporter du pollen mâle et pouvoir produire des fruits.
Ça suffirait de faire ça, juste une branche?
Ça suffit, ouais, ça suffit.
En ornement, moi, je pense au ginkgo. Vous avez des plants mâles et des plants femelles, et voilà, et c'est tout, c'est comme ça, quoi.
Et dans la précédente chronique, je vous ai parlé du kaki, donc... Je vais y revenir aussi parce que lui, il a une particularité au niveau de la pollinisation. Vous avez sûrement remarqué que dans les kakis, il n'y a pas de graines. Mais alors, comment ça se fait que le fruit grossisse? Alors qu'au début, je disais que sans graines, il n'y a pas de grossissement du conceptacle. En fait, le kaki, il a une particularité, c'est qu'il est parthénocarpique. C'est-à-dire que le fruit va pouvoir grossir sans qu'il y ait de pollinisation. Donc, c'est mis en pratique dans les vergers où on plante que des plants femelles pour avoir justement ces fruits sans graines. Et si jamais on mettait des plants mâles, on aurait des fruits avec des graines.
Est-ce que c'est spécifique au kaki ou il y a beaucoup de fruits pour lesquels c'est le cas ?
Il y a plusieurs fruits qui sont parthénocarpiques. Et il y en a qui peuvent l'être partiellement et on peut forcer par la sélection la parthénocarpie pour des usages commerciaux. Par exemple, les pastèques sans pépins, les bananes.
Et Romain, peut-être qu'on peut poursuivre cette chronique en se demandant pourquoi les arbres fruitiers sont finalement greffés souvent et pas semés.
Oui, tout à fait. Les arbres fruitiers, on les reproduit par greffage. Alors, tout ce dont on parlait maintenant, ça concerne on dit que c'est la reproduction sexuée des végétaux. On parlait d'autostérilité pour perpétuer l'évolution de l'espèce et son développement. En fait, tout ça, c'est du brassage génétique. Et quand on sème un pépin, un noyau ici issu de reproduction sexuée, on a forcément du brassage génétique et on n'aura pas un pied enfant qui sera fidèle au pied mère en termes de qualité de fruits. Et le seul moyen d'avoir quelque chose qui soit identique au pied qu'on veut reproduire, c'est de trouver d'autres moyens de ne pas passer par cette reproduction sexuée. C'est ce qu'on appelle les moyens de reproduction végétative. Ça concerne le bouturage, le marcottage et également le greffage. Donc c'est des clonages en fait, c'est des méthodes de reproduction qui reproduisent exactement le code génétique du pied initial, et donc c'est la garantie d'avoir un fruit qui soit en tout point similaire à ce qu'on veut. Donc en parlant concret, je veux un plant de reine Claude Doulin dans mon jardin, je vais décider de le greffer sur un porte-greffe compatible qui va accepter le prunier comme greffon. Donc ça peut être un prunier mirobolant, un pêcher, un peu n'importe quel type de prunus. Et je viens greffer un bourgeon de reine Claude Doulin sur cet arbre qui va me servir de porte-greffe. Et au niveau du point de greffe, quand la greffe va se développer, la génétique sera celle du greffon de reine Claude Doulin. Et donc le fruit aura la génétique de reine Claude Doulin et j'aurai effectivement des reine Claude Doulin. Mais pour autant, la génétique du noyau ne sera pas de la reine Claude Doulin, ce sera la génétique des parents de la fécondation qu'il y a eu. En fait, quand on mange un fruit, la chair a la génétique du fruit en question, mais la graine à l'intérieur, ou le noyau à l'intérieur, ou pépin, n'a pas la même génétique. C'est forcément une autre génétique. Il y a forcément eu du brassage génétique, à part quelques cas particuliers exceptionnels.
De toute façon, c'est un peu comme si on prenait deux parents qui ont des enfants. La probabilité d'avoir les enfants avec les mêmes gènes qui soient combinés de la même façon est très peu probable. Et en fait, voilà, ça se répartit toujours à chaque fois d'une autre façon. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est pas si compliqué. Il faut juste l'expliquer pour que les gens comprennent.
Voilà.
Et donc, il a utilisé les termes de bouturage, marcottage et greffage. Et ça, parce que c'est le côté fruitier plutôt. En ornement, et même à la rigueur en fraisier, on peut rajouter le stolonnage, qui est cette capacité de faire une tige qui va chercher un peu plus loin, et puis voilà, ça c'est encore une reproduction asexuée. Il y a aussi la division de touffe, où on va diviser une plante, si jamais, et puis j'avais pensé une dernière et je l'ai perdue.
J'en profite parce que j'ai une question. Très concrètement, est-ce que ce sont des techniques qui sont accessibles à tout un chacun dans son jardin? Comment est-ce qu'on fait pour bouturer, pour marcoter, pour greffer?
Alors, effectivement, c'est des techniques qui peuvent être assez faciles à mettre en œuvre, mais ça va dépendre des espèces. Il y a des espèces qui vont être très réticentes au bouturage ou au marcottage. Il faut vraiment trouver la technique qui est adaptée en fonction des espèces. Donc, sur les fruits rouges, ça va être très simple. Tout ce qui est cassis, groseille et compagnie, le bouturage est très facile. J'aime bien parler du kaki. Le kaki, ça se bouture pas du tout. On va être obligé de passer par du greffage. Sur du figuier, par exemple, ça sert à rien de s'embêter à greffer le bouturage dans de bonnes conditions, donne des bons taux de résultats. Et effectivement, il y a d'autres plantes que je maîtrise moins, mais par exemple l'artichaut, une division de souche, ça marche très bien, la rhubarbe aussi. Donc il faut vraiment trouver la technique adaptée à chaque espèce pour pouvoir faire cette reproduction végétative.
Et pour donner un exemple sur les fruits rouges, je veux bouturer mon plant de framboisier, comment je fais?
Alors le framboisier, c'est un cas particulier dans les fruits rouges, on le reproduit plutôt par division de racines, on va chercher à transplanter des rejets plutôt.
En fait, quand il disait fruits rouges, et il a raison, c'est vraiment exactement le terme, mais en fait ce sera plutôt cassis, groseille, les choses comme ça, qu'on va bouturer. Le framboisier, c'est un peu à part, on le divise.
Voilà, mais j'en profite pour me faire un petit coup de pub, si je peux me permettre. J'organise des stages de greffe à la pépinière chaque année au mois de mars, donc ça se passe sur une journée. C'est une journée pendant laquelle on aborde les différentes techniques de greffe pour les différentes espèces fruitières. Et l'après-midi est entièrement consacré à des travaux pratiques. Donc je fournis le matériel, je fournis des porte-greffes et des greffons. Et en fin de journée, chacun repart avec un arbre qu'il a greffé lui-même. Donc généralement, on reste sur des fruits à pépins parce que c'est le plus facile à greffer, pommier, poirier. Et ensuite, chacun peut planter l'arbre dans son jardin, l'arbre qu'il a greffé lui-même. Et généralement... ça se passe bien, tout le monde réussit sa greffe et un ou deux ans plus tard, je reçois des photos avec des arbres qui portent des fruits. ça me réjouit.
Donc n'hésitez pas à contacter Romain Murga, pépiniériste à Écheville, donc pour ce stage de greffe, si cela vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle Romain Murga, pépiniériste à Écheville, et également Romain Jacquet Laforge, qui est jardinier et qui nous propose chaque semaine donc cette chronique Brin de jardin. On parlait aujourd'hui pollinisation, fleurs mâles et femelles, greffes et semences d'arbres fruitiers. Et vous pouvez réécouter donc cette chronique pour avoir tous les détails et tous les conseils sur notre site internet radioroyant.fr. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à lui envoyer vos questions écrites par mail à brindejardin@gmail.com, brin au pluriel. À très bientôt.